Joseph. Joseph dans l'Ancien Testament, pas Joseph le mari de Marie dans le Nouveau Testament. Alors très rapidement, si vous avez lu, j'espère même cette semaine, le récit de Joseph, mais même si vous ne l'avez pas fait, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à Joseph? Juste quelques idées avant de commencer. Pardon? Jacob, ok, très bien. Quoi d'autre? Pensez à Joseph en Genèse. Ça peut être un mot ou une courte phrase, oui. Ok, accusé à tort. Autre chose? Vendu comme esclave, ouais. Donc là, c'est des souffrances encore, hein, des souffrances injustes. Ok, autre chose? Pardon? Plus fort. Ah, les songes qu'il a eus. Très bien, quand il était... Enfin, plusieurs en fait, hein. Reviennent des songes. Si ce n'est pas Joseph, c'est d'autres dans sa vie qui l'interprètent. Autre chose? Ok, pardon, vas-y. Un type de Christ, ok, ça fait penser à Christ, et fidélité de Dieu envers lui. Très bien. Oui? Le pardon aussi, ouais. C'est un grand thème dans sa vie. Très bien. Vraiment, c'est un des personnages dont nous avons le plus d'informations dans la Bible. Et quand vous avez ici sur votre photocopie l'objectif de la leçon aujourd'hui, c'est moi qui vais faire cette première. Maxime va venir pour faire la semaine prochaine. C'est général. C'est étudier le but du récit biblique de la vie de Joseph. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Dieu nous donne cette histoire? Et puis, avec la semaine prochaine, on va commencer à regarder plus les détails de sa vie. Parce que quand vous lisez la Bible, elle vous paraît peut-être assez longue, mais elle est très sélective. Je parlais de ça cette semaine... C'est avec Fatir qu'on parlait, oui. Du fait qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas racontées dans la Bible. Et pourquoi tant donc de place depuis le chapitre 37 jusqu'au chapitre 50 occupée avec la vie d'un seul homme? C'est une bonne question et qui va nous aider à profiter. Parce que quand on regarde après dans la vie même de Joseph, ce qui est raconté, on voit que les détails des 17 premières années de sa vie sont largement voilés. On le voit que peu. On voit sa naissance, le fait que sa mère est morte. On voit peu de choses de sa jeunesse. Et puis, les 61 dernières années de sa vie sont traitées avec une brèveté frappante. Il n'y a pas beaucoup de choses par rapport à quand même une longue période de sa vie. Donc, c'est vraiment l'histoire, la plus grande partie de l'histoire englobe les 23 années de sa vie entre les âges de 17 et 40 ans. Et dans ce temps, on le voit abaissé et puis exalté. Abaissé encore par ses frères parce qu'il est exalté par son père, on peut dire, et puis abaissé de nouveau par ses frères, exalté de nouveau chez Potiphar, où il devient chef de sa maison, puis rabaissé, avili, ben, encore de nouveau, et renvoyé une deuxième fois maintenant en prison et en tant qu'esclave, et puis exalté encore. C'est l'histoire de sa vie, il y a vraiment des hauts et des bas, hein, dans sa vie. Quelqu'un dit que la carrière de Joseph, comme son manteau, est de plusieurs couleurs ou pièces, variant du plus sombre au plus brillant. On trouve un peu de tout dans sa vie. Et tout est là, exprès, pour nous apprendre des choses de Dieu, de nous, et de la façon dont Dieu agit dans la vie. Donc il y a quatre choses que nous allons voir ce matin. Et la première chose, vous avez un trou. Qui a besoin d'un stylo? J'ai quelques stylos devant. Quelqu'un a besoin d'un stylo? Levez la main. C'est bon? Ouais. Sinon, c'est bon? T'as besoin? Là, tu vas partager avec Jocelyn? Sinon, il y en a ici. Hein, tu peux venir. La vie de Joseph est racontée pour mettre en avant sa piété. Sa piété, c'est ça le premier mot. Alors, une chose qui nous aide en lisant Genèse, c'est de nous rappeler de l'époque où le livre de Genèse a été écrit et les gens à qui Genèse était destiné. Genèse est d'abord donnée à qui? Bon, Genèse est écrite par qui? On va commencer là, c'est plus facile peut-être. C'est Moïse, n'est-ce pas, qui écrit Genèse. Et donc, il l'écrit et il le donne à qui? Qui sont les premiers destinataires? Oui, le peuple d'Israël, juste après qu'il quitte l'Égypte, il se prépare donc à entrer dans la terre promise. C'est pendant cette période où la nation, en tant qu'une nation, est dans ses débuts. Il y avait un grand peuple, mais ce peuple est esclave, et maintenant elle doit devenir une nation. Donc ils sont délivrés de l'esclavage, justement du pays d'Égypte, où ils avaient passé combien de temps en Égypte? Oui, 400 ans à peu près, hein, 4 siècles. Et ils sont dans le désert. Et Moïse rapporte pour ces Juifs nouvellement délivrés, grâce à l'élection par Dieu, à travers la vie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, les 12 fils de Jacob, la bonté de Dieu envers eux. Et quand il arrive à... Donc il va raconter Abraham. Hein, il va raconter la vie d'Isaac. Il va raconter la vie de Jacob. Mais quand il arrive à la vie de Joseph, à l'âge de 17 ans, on voit que déjà Joseph a une foi qui est mûre. Il n'a que 17 ans, mais il agit en tant que vraiment quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui a confiance dans le Seigneur. Il a foi dans les promesses de Dieu. Dieu lui donne ses promesses. Les songes que Joseph a eus, c'est vraiment des révélations divines qu'il a eues. Hein, ce n'est pas un songe comme nous, on aurait un songe. C'est une révélation divine et il y croit. Il y croit. Il a confiance en Dieu malgré ses circonstances. Et donc il devient, dans un vrai sens, un exemple pour ces gens qui commencent leur vie en tant que nation, de faire confiance à Dieu. Et ça se voit surtout quand on le compare ou quand on le contraste à d'autres. Donc, est-ce qu'on peut lire Genèse 37, verset 2? Quelqu'un peut nous lire Genèse 37, verset 2? Et d'abord, nous allons remarquer ici un contraste. Vas-y, Geneviève.
Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leur mauvaise nouvelle.
Oui, donc Joseph est tout de suite mis en contraste ici avec qui? Ses frères. Hein, ses frères. On est d'accord? Donc c'est ça qu'on peut mettre la lettre A. Donc la vie de Joseph est racontée pour mettre en avant sa piété par opposition à ses frères. Tout de suite, on rencontre Joseph, on voit qu'il y a deux groupes. Il y a les frères de Joseph, excepté probablement Benjamin qui est encore petit, hein. Mais sinon il y a les autres frères et puis il y a Joseph. Il est classé à part. Et en fait, c'est lui qui va rapporter à son père les mauvais propos de ses frères. C'est lui à qui Jacob pourra faire confiance. C'est lui que Jacob va envoyer plus tard pour lui dire, mais qu'est-ce qu'ils font réellement tes frères? Il y a une confiance qu'a Jacob en Joseph qu'il n'a pas dans ses autres frères. Et déjà, si vous avez lu ce qui vient avant, il y a deux de ses frères qui vont tuer plein de gens pour venger le viol de leur sœur Dina. Ils vont faire ça sans la connaissance de leur papa. Il va se dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? Donc, il a pas une confiance dans ses autres fils, il a une confiance en Joseph. Donc, Joseph montre la volonté d'accepter même du leadership au sein de sa maison. Et on voit ses frères qui se précipitent presque pour renoncer à leur rôle. Donc, Joseph a la confiance de son père, les autres ne l'ont pas. Joseph obéit à Dieu quand il est seul, tout seul, et ses frères tombent à plusieurs reprises dans le péché, même quand ils sont ensemble. Les frères de Joseph ont besoin de 22 ans de purification, de discipline de la part du Seigneur pour les arriver au même stade où est Joseph à 17 ans. Donc on voit vraiment cette opposition au sein même du peuple de Dieu. Ceux qui sortent d'Égypte, ils voient, ok, ils sont tous enfants de Jacob, tous petits-enfants d'Isaac, tous arrière-petits-enfants même d'Abraham, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous pareils. Il y a un qui a foi en Dieu, qui obéit à Dieu, et les autres qui ne le font pas. Et puis, quand on lit Genèse, on voit une comparaison aussi entre Joseph et qui. C'est-à-dire, on arrive au chapitre 12. Chapitre 12 commence de Genèse l'histoire de qui? C'est vraiment la deuxième grande section de Genèse. Nous sommes... Qui nous est présenté, Genèse chapitre 12? On est après... Voilà, Abraham. Et Abraham va être le père de la nation. On a Abraham, et puis on a l'histoire d'Isaac, et puis on a l'histoire de Jacob, et puis on a l'histoire de Joseph. Donc il est comparé ici à qui? Il est mis au même niveau, au même plan dans le récit que Abraham, Isaac, Jacob. Donc, lettre B, on peut mettre en comparaison avec les patriarches. Les patriarches, vous pouvez mettre en parenthèse, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Il est dans un sens au même niveau qu'eux dans le récit, et il est dans un sens aussi unique parmi les autres patriarches, parce que le récit va couvrir toute sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort. Et couvre d'une façon plus détaillée que n'importe quel autre des patriarches. On a plus de place dédiée à Joseph que même à Abraham. Et en plus, et ça c'est à noter, hein, si vous avez la place, le récit de la vie de Joseph ne comprend pas les échecs qui nous sont donnés par rapport à Abraham. C'est-à-dire, en lit de la vie d'Abraham, il y a des échecs dans sa vie. Quand il est parti en Égypte, il a menti concernant sa femme, avec Agar qu'il a pris. Ou quand on lit la vie d'Isaac, encore des échecs. Lui aussi a menti par rapport à sa femme, et par rapport à ses fils, il a même essayé de résister, de changer la volonté de Dieu. Quand on lit Jacob, là aussi, on voit les failles, les difficultés, les péchés. Et on arrive à Joseph, et on voit pas d'échec vraiment personnel qui assaillait souvent ses pères, Ça ne veut pas dire qu'il était parfait. Hein. La Bible ne présente pas comme parfait non plus. Mais on ne voit pas ses échecs. Donc, il est vraiment élevé dans le récit que l'Esprit nous donne. Et puis C, la lettre C, donc vous avez A, c'est par opposition à C, quoi ? Frères. B, en comparaison avec les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Et puis C, en comparaison avec quelqu'un qui vient beaucoup plus tard dans le récit biblique, hein, mais un autre jeune homme qui a aussi servi dans un palais païen pour un roi qui a été élevé. C'est qui? C'est Daniel. Ouais, Daniel. Au cours des premières années de l'histoire du développement d'Israël en tant que nation, Dieu se révèle à travers un jeune homme qui lui est resté fidèle, c'est Joseph. Et vers la fin de l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, Dieu se trouve et se prouve à nouveau fidèle dans la vie d'un autre jeune homme. Dans des circonstances similaires, il y aura même des songes qu'il va interpréter. Enfin, si vous commencez à faire des parallèles entre Joseph et David, c'est intéressant, c'est instructif pour vous. Quelqu'un a dit ceci, l'un se tient au commencement, l'autre à la fin de l'histoire juive, dans la révélation biblique. Ils étaient tous deux représentants du vrai Dieu et de son peuple dans des palais païens. Tous deux étaient exemplaires dans leur pure marche devant le Seigneur. Tous deux étaient doués du don de mettre en lumière la vérité qui s'exprimait parmi les païens dans des rêves envoyés par Dieu. Tous deux étaient doués d'une sagesse et d'une perspicacité merveilleuse, et pour cette raison très honorés même parmi les nations. Voilà. Donc vous voyez, Joseph est quand même un personnage important. Deuxièmement, la vie de Joseph est racontée pour mettre en avant son rôle historique. Vous avez deux mots à mettre là, son rôle historique dans la vie de la nation Israël. Et ça, c'est très important quand nous lisons la Bible, quand vous lisez la Bible, de regarder de plusieurs façons. Je vais prendre un autre exemple que vous connaissez peut-être, David et Goliath. On peut regarder, lire la vie de David et Goliath simplement sur le niveau individuel. David, petit, faible, jeune, Goliath, grand, fort. Mais ça serait de manquer ce qui se passe dans cette histoire. En fait, c'est l'histoire de deux nations. C'est l'histoire d'un futur roi. Et donc, il faut aussi penser à ce que Dieu fait dans la nation quand Goliath est tué. Et c'est la même chose avec Joseph. On ne peut pas simplement regarder la vie de Joseph en tant que... Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur le plan individuel? Sa piété, oui, c'est important. Mais qu'est-ce que Dieu fait dans cette nation à travers Joseph? Vous voyez, c'est une autre façon de regarder les mêmes détails. Et Moïse a structuré Genèse autour des thèmes. Quand nous avons fait notre étude en Genèse, nous avons remarqué ça à plusieurs reprises. De cette idée des générations. Alors, je vous donne les références. Genèse 2:4, voici les générations du ciel et de la terre, c'est-à-dire les débuts. Le mot Genèse veut dire ces débuts, c'est du ciel et de la terre. Et puis on arrive 6:9, les générations de... C'est qui en Genèse 6? Je teste votre connaissance biblique. Genèse 6, oui c'est la mort, mais quel personnage? Noé. Hein, Noé, très bien. Genèse 10:1, génération des fils de Noé. Genèse 11:27, Terah qui est le père d'Abraham. Donc c'est la présentation après d'Abraham. Après 25:12, les générations d'Ismaël. 25:19, les générations d'Isaac. 36:1, les générations d'Ésaü. Et puis 37:2, les générations de Jacob. Donc quand il parle d'Ésaü, c'est un seul chapitre, c'est pas très long, c'est 19 versets en fait. Et puis, à partir du chapitre 37, Moïse commence à considérer les générations de Jacob. Et à la conclusion du livre, Israël est maintenant en Égypte, depuis 61 ans. Parce que Joseph avait 39 ans, hein, et il meurt à 110 ans. Donc, on estime donc à 61 ans le temps qu'ils sont en Égypte. Et donc, le peuple de Dieu qui était dans la terre promise est maintenant en Égypte. Et qui est-ce que Dieu utilise pour amener ce peuple d'Israël en Égypte? C'est qui? C'est Joseph, oui. Dieu va utiliser Moïse pour les enlever plus tard. Hein? Mais pour les amener, il utilise Joseph. Donc, vous avez ça, la lettre A, sous le numéro 2. Joseph est l'instrument de Dieu pour implanter cet embryon de nation dans le ventre qu'est l'Égypte. Bon, c'est un peu pictoresque, mais c'est comme il y a une petite semence, elle a besoin d'une bonne terre, d'une serre, pour pouvoir grandir. Elle ne pourra pas tout de suite fonctionner comme nation, se défendre avec des frontières, avoir des juges, des rois, etc. Elle a besoin de grandir. C'est comme un enfant, il ne peut pas tout de suite pourvoir à ses besoins. Israël est dans son enfance ici en tant que nation. Comment est-ce que Dieu va les protéger, cette période très sensible et fragile? Ah, il va les placer en Égypte. Tout comme il fera plus tard avec Jésus. Pour le protéger dans son enfance, il le met où? Il le met en Égypte. Donc, on voit plusieurs fois dans le livre de Genèse où Dieu avertit directement ou indirectement du danger de se marier avec le peuple. C'est un thème récurrent en Genèse. Et Genèse 12 à 38 révèle les multiples tentations des membres de la jeune nation de se marier avec le peuple et de mêler les pratiques culturelles des païens avec les leurs. Nous avons, par exemple, en Genèse 12, l'histoire de Sarah et Pharaon, quand Abraham va en Égypte et Pharaon prend Sarah. Et puis c'est Dieu qui doit intervenir. Nous avons l'histoire en Genèse 6 de Abraham et qui? Abraham prend qui? D'Égypte d'ailleurs. Il prend une Égyptienne qui s'appelle Agar. Nous avons Genèse 20, Sarah et Abimélech, roi de Guérar. Et là encore, Dieu doit intervenir et arrêter. Et puis, nous avons les instructions d'Abraham concernant la femme d'Isaac au chapitre 24, 2 à 4. Où Abraham va dire à son serviteur qui va chercher une femme pour son fils, surtout pas, ne lui donne pas une femme d'ici. Hein. Et il lui dit, si tu trouves pas une femme là-bas, ben tu es plus sur l'obligation, mais ne prends pas non plus mon fils là-bas. C'est-à-dire pour Abraham, il y a des choses plus importantes que le mariage même. Il dit, mais si tu trouves rien, donc fais avec ce que tu peux. Il dit, non, il vaut mieux qu'il ne se marie pas que de se marier incorrectement. Et c'est encore la vérité d'aujourd'hui. Il vaut mieux ne pas se marier que de se marier incorrectement, pas selon la volonté de Dieu. Et puis, on a l'erreur qu'Ésaü a infligée, enfin la douleur d'Isaac et Rebecca par rapport à Ésaü. Ça, c'est au chapitre 26, versets 34 à 35. Nous avons le désir de Rebecca concernant la femme de Jacob qu'elle exprime à son mari. Elle dit, il ne faut pas qu'il se marie avec quelqu'un d'ici. Ça, c'est au chapitre 27, 46. Puis, nous avons cette horrible histoire de Dina, où elle est violée. Et ils disent carrément au début, on va prendre vos filles comme femmes, on va donner vos filles. Bon, après, c'est un mensonge, mais on voit cette horrible histoire. On voit que Judas épouse la fille de Shua, ou Shéla, le Canaanite. Judas s'en va. Judas marie son fils, à une femme cananienne qui s'appelle quoi? Tamar. Et Judas va porter après les enfants de sa belle-fille, ça c'est au chapitre 38. Et quelqu'un dit, c'est presque comme si les pires violations possibles étaient conservées jusqu'à la fin, pour illustrer à quel point les femmes païennes pouvaient être perverses et le danger dans lequel se trouvait cette nation. On n'a pas le temps de lire, mais on a Judas, qui est le qui prend souvent le leadership parmi ses frères. Et il va se séparer de sa famille, il va carrément marier à une païenne. Et le terme qui décrit Tamar quand elle appelle Judas du bord de la route, vous voyez, elle s'habille en prostituée, mais c'est le mot Kedesha, qui veut dire une prostituée du temple. C'est-à-dire une classe de femmes dévouées à la luxure en rapport avec leur religion païenne. Et ça marque donc le point le plus bas auquel il se livre. Il va aller vers une prostituée, mais une prostituée qu'il sait est attachée, enfin, il pense. Elle se dit une prostituée religieuse, dévouée à ses idoles. Et là, il dit, mais pourquoi pas, il se donne à cette femme. Vous voyez le danger dans lequel se trouve cette nation. Elle va se perdre, elle va devenir comme les païens. Et donc Dieu juge nécessaire de retirer son peuple de ce cadre pendant 430 ans pour les préserver d'eux-mêmes. Dans un sens, il doit préserver Judas de lui-même. Parce que les trois premières générations, c'est Abraham, Isaac, Jacob, ils ont réussi quand même à se garder distincts des païens. Mais là, avec Judas, le plus fort des frères aînés, on voit maintenant que cette distinction va se perdre si Dieu n'agit pas. Et donc on voit que Dieu utilise Joseph pour sauver en fait les frères d'eux-mêmes. Donc il est l'instrument pour les implanter en Égypte. Et puis la lettre B, Joseph est l'instrument pour garder, c'est ça qui manque, pour garder cet embryon de nation en Égypte jusqu'à ce qu'il soit suffisamment fort. Et là, peut-être on peut lire deux versets. Qui peut lire Genèse 46, verset 34? Un volontaire? Parce qu'après j'ai un autre verset. Genèse 46, 34. Olivier, merci. Et quelqu'un d'autre? Exode 1, 7. Qui peut lire Exode 1, 7? Personne peut lire Exode 1, 7. Allez, Vanny, ok. Écoutons donc Genèse 46, 34. Vas-y, Olivier. Voilà. Il y a une sagesse là-dedans. Ils sont amenés en Égypte, ils sont donnés le meilleur d'Égypte, mais il y a cette distinction qui va quand même exister entre les Égyptiens parce qu'ils détestent ça, et donc il y a quand même une division, une séparation même avec les Égyptiens. Alors qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? Exode 1, 7. Voilà, vous voyez ce que Dieu fait? Le pays est rempli de ces juifs et ils sont protégés. Vraiment, c'est l'endroit où Dieu les développe pendant ces 430 ans pour devenir une nation. Ce n'est pas des années perdues, hein. C'est des années de croissance pour cette nation. Ok, donc ça c'est numéro 2. Numéro 1, la vie de Joseph est racontée pour mettre en avant sa piété, ça c'est sur le niveau personnel. Pour mettre en avant son rôle historique dans la nation. Et puis troisièmement, en bas de la page 1, la vie de Joseph est racontée pour magnifier la providence divine. C'est un thème dominant qui fait surface dans le récit de Joseph, la providence de Dieu. Et on voit la réponse de Joseph à ce que Dieu fait dans sa vie. C'est ça surtout qu'on veut noter, c'est sa réaction envers Dieu qui agit dans sa vie. Donc il y en a la lettre A, la conscience permanente qu'a Joseph de quoi? On va lire Genèse 39, verset 9. Genèse 39, verset 9. Qui peut lire ce verset? Ok, Kaina, 39, verset 9. Joseph, ici, est tout seul. Il est loin de sa famille. Il est entouré. Donc, il est dans un pays païen. Il a une femme qui s'avère être la femme du maître, qui lui promet des faveurs, vraiment probablement plus de richesses, plus de pouvoir, si il lui donne ses faveurs, si on peut dire ça comme ça, et tout est là pour l'inciter à l'immoralité. Tout est là. Mais lisons ce verset, vas-y. Voilà. Et à qui est-ce qu'il pense? Comment puis-je pécher contre Dieu? C'est vraiment là où c'est surprenant même de voir la foi et la confiance de cet homme. Ça va lui coûter cher. Il sait que ça va lui coûter cher. C'est pas seulement qu'il résiste à l'immoralité. Non, il choisit de souffrir. Et donc, il a une conscience permanente de la présence. C'est ça que je veux mettre dans le trou là. La présence permanente de Dieu. On peut se leurrer en pensant que Dieu est loin. Ou que Dieu ne regarde pas. Je suis sur mon portable, je suis sur l'internet, je regarde des choses, je lis des choses, ou je suis en train de dire des choses, ou je suis dans une dispute, et je perds conscience de la présence de Dieu. Pas Joseph. Il a cette reconnaissance constante de la présence de Dieu avec lui. Cela nous semble en effet la seule grande certitude qui domine sa vie. Il confiant que Dieu est là, pas loin, mais tout près de lui. Pas comme quelqu'un qui se tient à l'écart, mais quelqu'un qui domine et de contrôle de près. Et même pas comme un ennemi à craindre, mais comme un ami à aimer et à qui il peut faire confiance. Donc quand il dit, je ne peux pas pécher contre Dieu, on sent derrière là une motivation d'amour, pas simplement de crainte. Je ne sais pas ce que Dieu va me faire. Non, Dieu, il est mon Dieu. Comment puis-je faire ça envers mon Dieu? On voit aussi la reconnaissance de la présence de Dieu dans les rêves qu'il a eus, hein, qu'on verra plus tard, dans sa réponse à la femme de Potiphar, comme nous venons de mentionner, dans l'interprétation des rêves en prison, dans l'interprétation des rêves devant Pharaon, parce qu'il dit c'est pas moi, c'est Dieu qui donne ces révélations, dans le nom même de ses enfants, quand Dieu lui donne des enfants, il leur donne des noms qui ont en lien avec sa relation avec Dieu. Dans ses paroles avec son père, plus tard, dans ses paroles avec ses frères, dans sa demande à la fin de sa vie, quelle est sa dernière requête? Exactement, ouais. Qu'on prenne ses os quand ils vont repartir d'Égypte, qu'on les prenne avec eux. Il a 12 frères. Et 11, on les laisse en Égypte, hein, leur corps. Mais Joseph, son corps, on le prend en quittant l'Égypte. Donc, la lettre B, je crois que vous avez besoin de tourner la page ici. L'acceptation patiente par Joseph de quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là? Il accepte patiemment. Donc c'est quelque chose de, qui n'est pas agréable ici. On parle de quelque chose qui n'est pas agréable. C'est... Si vous regardez, si vous pouvez tourner la page et regardez le verset que nous avons mis en haut. Vous avez médité de me faire quoi? Du mal. Il reconnaît qu'il y a du mal là-dedans. Et Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous voyez même, il voit la main de Dieu dans tout ce qui se passe pour la nation. Hein. Dieu agit pour Abraham, Isaac, Jacob et la nation. Il a changé votre mal en bien pour le bien de la nation. Même là, il n'est pas égoïste. Hein. Il ne dit pas, c'est pour mon bien. Non, c'est pour le bien de la nation. Mais le mal, il reconnaît même le mal que font les hommes. Dieu l'utilise et le prend et le change. Donc le mot, c'est l'adversité. La lettre B, en haut de la page 2, l'acceptation patiente par Joseph de l'adversité comme venant de Dieu. Bien sûr que son cœur était déchiré par l'angoisse. On le voit ça même dans le nom qu'il donne à ses fils plus tard. Mais il ne s'est pas laissé aller à des regrets inutiles. Même en prison, il peut attendre patiemment le temps de Dieu pour sa délivrance. Il va demander à un homme, mais pensez à moi lorsque tu sors de la prison, et le gars l'oublie. Et il est là encore 2 ans. En prison, 2 ans, c'est longtemps. Hein. Et puis la lettre C. L'acceptation humble par Joseph des bienfaits comme venant de Dieu. Ça, c'est l'autre côté. Quelqu'un dit, Dieu était avec lui dans le cachot et cela l'empêchait de surestimer ses difficultés. Dieu était avec lui dans le char du roi ou du pharaon et cela l'empêchait de surestimer son honneur. L'affliction n'a pas aigri son cœur et la prospérité ne lui a pas fait tourner le dos à Dieu parce qu'il sentait que Dieu était près de lui dans les 2 cas. Et quand nous arrivons à une foi comme celle qu'il avait en présence et sous la protection d'un Dieu à qui nous sommes unis par alliance, nous pourrons conserver une tranquillité comme la sienne. Parce que, vous savez, être en prison, ça porte des tentations, mais être le deuxième du royaume, ça porte aussi des tentations. Surtout face à ses frères, il peut tout faire. Il peut tout faire contre ses frères. Et il réalise, dans le moment, il le regarde. Je peux les tuer, mais Dieu a fait tout cela pour que je les sauve. Et donc, il décide de sauver Judas qui voulait le tuer. Et il utilise les bénédictions de Dieu pour faire du bien à ceux qui ont fait le plus mal, qui lui ont fait le plus mal. Imaginez, hein, vous êtes tout d'un coup béni par Dieu et vous utilisez votre argent pour faire du bien à peut-être un parent ou quelqu'un dans votre vie qui vous a fait le plus tort. C'est ce qu'il fait. Parce qu'il reconnaît même les bienfaits viennent de Dieu. Donc il y a, voilà, il y a ces contrastes très vifs. Et j'aime bien le psaume, vous pouvez marquer cette référence, le psaume 76, verset 11. Qui dit « L'homme te célèbre même dans sa fureur. » Ou la Sommeur dit « Car même la fureur des hommes tournera à ta gloire. » Dieu sait utiliser même la fureur de l'homme pour sa gloire. Quelqu'un dit « Il y a une ironie, si nous pouvons le dire ainsi, à faire de la haine de ces hommes le moyen même d'avancer le moyen même de l'avancement de leurs frères est l'occasion de se bénir eux-mêmes. Dieu prend leur haine contre Joseph et l'utilise pour, en fait, accomplir le rêve et puis pour les bénir aussi plus tard eux-mêmes. Et puis, dernièrement, numéro 4, pour mettre en avant les similitudes entre la vie de Joseph et la vie de Christ. Les similitudes, c'est le mot qui manque, similitudes. Il y a de nombreux points de parallèle entre, comme a été noté tout à l'heure, hein, entre Joseph et puis Jésus-Christ. Donc, on a parlé d'Égypte, le fait qu'il est en Égypte, le fait qu'il soit rejeté par ses frères. Et le fait que Dieu utilise même le péché, la haine de ses frères pour être, en fait, leur salut. C'est ça qui est le plus surprenant. Dieu utilise la haine de ses frères pour les sauver. Plus tard. Mais ils ne pourront pas se glorifier. Ils ne pourront pas dire, regardez ce que nous avons fait. Hein. Ils seront humiliés entre-temps. Mais Dieu utilise même leur péché pour faire croître sa grâce. Et je veux juste noter un lien qu'on voit dans le Nouveau Testament même, et c'est en Actes chapitre 7. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ce verset? Actes chapitre 7 nous donne une longue prédication de qui? Quelqu'un peut deviner? Juste avant sa mort, il va mourir à la fin. Étienne, oui, ça lui a coûté cher, hein. Alors, Actes chapitre 7, verset 9. Qui peut le lire? Ah, j'ai plusieurs ici. Ah, très bien. Sheila, vas-y. Voilà, on voit ce retournement, hein. Leur péché, et Dieu intervient. Et puis tu peux lire après les versets 51 à 53, lis bien fort. Écoutez ces versets. Acte 7, 51 à 53. Voilà, c'est bon. Mais en somme, ce qu'il dit, il dit que le leader que Dieu a choisi, vous l'avez rejeté, et Dieu, quand même, l'a utilisé malgré votre rejet. Moïse, vous avez fait la même chose avec Moïse, vous l'avez rejeté, Dieu l'a utilisé quand même. Les prophètes, c'est la même chose, vous les avez rejetés, Dieu les a utilisés quand même. Et Joseph, c'est frappant, vous l'avez rejeté, vos pères l'ont rejeté, mais Dieu l'a utilisé, celui qui était rejeté, pour sauver le reste de la nation. Et il dit, c'est exactement ce qui se passe encore maintenant. Dieu a donné son fils, Jésus, vous l'avez rejeté, et Dieu maintenant l'utilise pour vous sauver. C'est-à-dire, leur rejet est finalement, on voit que finalement leur rejet joue un rôle dans l'obtention de la délivrance. Et c'est vrai, avec des mains cruelles, vous avez crucifié le Fils. Mais vous savez, en le crucifiant, il est mort pour vous. Et il devient votre sauveur. C'est beau, hein, de voir comment Dieu prend la colère, la fureur de l'homme, et l'utilise même pour sauver l'homme. Ça, c'est grâce sur grâce sur grâce. Quand il nous sauve de cette façon. Alors, je vous encourage à garder cette feuille. Dieu voulant, la semaine prochaine, nous aurons des lutins, et puis on aura chaque fois le même format. Et comme ça, à la fin, vous aurez un petit souvenir de ce que nous avons pu voir dans sa vie et des notes que vous avez prises vous-même quand vous relisez cette histoire de Joseph. Nous allons nous saluer les uns les autres et puis commencer dès que possible à notre deuxième partie.